France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's on in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce get in the radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Pès.
Un jour dans le monde, c'est un jour en Russie ce soir.
Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир.
Et lui, c'est Vladimir Poutine, hein, qui dit ceci, nous sommes le 27 février dernier, nous voyons tous à quelle vitesse le monde et la situation mondiale évoluent. À cet égard, je voudrais noter que les premiers contacts avec la nouvelle administration américaine suscitent un certain espoir. Bonsoir Yegor Gran.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes écrivain français, vous êtes né en Russie, votre père Andrei Sinyavsky était un grand dissident au régime russe. Dans vos livres, vous avez la dent extrêmement dure contre le régime de Vladimir Poutine, on a lu Z comme zombie, on a lu l'entretien d'embauche au KGB notamment. Publié l'un chez POL et l'autre chez Bayard Récit. Vous tweetez beaucoup aussi, Yegor Gran.
Hélas.
Et hier, ouais, hélas peut-être, hier vous avez écrit ceci. Il faut se rendre à l'évidence, avant même d'entrer en fonction, Trump a passé un deal avec le Kremlin. Il abandonne l'Ukraine, sans doute aussi la Moldavie et les Pays-Baltes, en échange de morceaux de verre qui brillent et d'un bisou aérien de son Poutine préféré. On va venir aux Pays-Baltes et à la Moldavie un peu plus tard. Mais vous pensez qu'il a passé un deal, qu'au fond tout ça était scénarisé, tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on a vu était scénarisé ?
Oui, je le crains, tout simplement parce qu'il n'a pas eu un seul mot, un seul bémol contre la Russie ou contre Poutine. Il a centré, lui et son administration, toutes ses attaques sur l'Ukraine d'une manière absolument abjecte. On se souvient de la réception au bureau ovale. On se souvient avec quelle morgue Elon Musk tweet sans arrêt sur l'Ukraine. Je pense que ça fait partie d'un deal négocié, peut-être même avant son entrée en fonction. Tout simplement parce que, comme il aime le répéter lui-même, hein, c'est un homme qui aime faire les deals et qu'il a toujours adoré Vladimir Poutine. Il le regardait toujours avec un respect infini, en quelque sorte de mâle sous alpha à mâle alpha, ou mâle alpha encore plus fort que lui. Voilà, je pense qu'ils ont beaucoup de choses en commun, Vladimir Poutine et Trump. Donc ça ne me paraît pas du tout impossible, enfin ça me paraît même assez clair.
Mais le but, ce qu'il y a dans le deal, ce qui a été peut-être écrit, même aller savoir, et signé, c'est quoi ? C'est on se partage l'Ukraine, à toi les territoires, à moi les terres rares.
Ah ben moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup, comme je dis, des petits bouts de verre brillants, c'est-à-dire rien. Mmh. C'est-à-dire que, vous savez, Poutine est un as de la manipulation. C'est quelqu'un qui a passé des années en tant que chef du FSB. Il a grandi en Union soviétique, il a fait plusieurs écoles du KGB. Il sait très très bien comment on manipule les gros naïfs, arrogants et narcissiques, si vous voulez. Il a fait ses dents de lait à apprendre ces techniques-là. Donc, avec de la flatterie, avec les bons arguments très sympathiques, eh bien, je pense qu'il s'est mis Trump dans la poche il y a déjà des années. Hein.
Bah tiens, puisque vous y êtes, vous y croyez, vous, à cette théorie qui commence à courir un peu partout et qui dit, qui s'interroge sur Trump, agent russe, ou en tout cas le fait que les Russes en ont sous le pied contre lui, et que c'est aussi la raison pour laquelle il agit comme ça, vous y croyez?
Non,
à ça,
je n'y crois pas, tout simplement parce que Trump est né avant la honte, comme on dit, et donc le FSB...
Donc il n'a même pas besoin de ça, en fait.
Oui, il peut avoir des armoires et des armoires d'éléments compromettants avec des vidéos croustillantes, ça ne lui fera ni chaud ni froid. En revanche, Trump est un abruti qui est narcissique, qui de ce fait même est extrêmement manipulable, facilement manipulable par quelqu'un de formé à ça.
Ça veut dire que vous n'êtes pas tombé de votre chaise, j'ai bien compris, vendredi pendant l'engueulade dans le bureau ovale. Au fond, est-ce que vous diriez que les Russes pro-Poutine ont regardé cette scène en mangeant du pop-corn, vraiment, en se disant, bah dis donc, on n'en espérait même pas autant?
Si, je suis quand même tombé de ma chaise, parce que c'est un événement absolument majeur. Un éclair dans un ciel assez gris, mais pas encore noir. C'était un comportement absolument abject, une humiliation infligée à Volodymyr Zelensky. Voilà. Donc, je pense que, évidemment, les pro-Poutine ont été ravis, mais presque trop. C'est-à-dire que, en quelque sorte, ils se demandaient si l'univers peut être beau à ce point. J'ai vu par ailleurs, parce que je surveille beaucoup ce qui se dit sur les médias russes, j'ai vu beaucoup de pro-poutinien russe se dire c'est un piège, il essaie de, nous amadouer pour ensuite nous assommer, restons vigilants.
Mmh. Est-ce que ça veut dire que la propagande russe du coup a changé ou au contraire n'a pas changé du tout? Est-ce que désormais aux yeux des Russes, Trump fait le boulot en quelque sorte, ou est-ce qu'ils ont, ils en ont rajouté une couche?
Ah bah, la propagande russe a changé du jour au lendemain, c'est-à-dire que à partir du moment où Trump est devenu aussi bienveillant, eh bien, les attaques contre les États-Unis dans la presse, sur les réseaux sociaux, ont cessé immédiatement, comme si on avait appuyé sur un bouton off. Vous voyez, il y avait par exemple pendant des années, pendant ces trois dernières années, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, etc., on voyait circuler des voitures, des grosses voitures, avec dessus un missile fait en papier mâché, sur lequel était marqué ensemble, allons frapper Washington. Donc, avec une menace tout à fait claire, eh bien, dans une vidéo un peu surréaliste, on voyait les conducteurs de ce camion, juste après donc, le bureau ovale, donc en posant devant ce camion, dire « Nous remercions le président Trump de s'être montré aussi compréhensif pour nos revendications. » Ils avaient juste oublié d'enlever donc, le missile qui pointait toujours vers Washington. Voilà, donc on change de veste en plein air, hein, on n'hésite absolument pas à adorer ce qu'on on a haï la veille, c'est le propre de la propagande poutinienne qui change comme ça.
Est-ce que, Yegor Gan, dans la société russe, donc celle qui de toute façon a cru à la propagande depuis le début, cette nouvelle alliance conforte le poids de Poutine? Ce que je veux dire, c'est que la double trahison de Trump, au fond, c'est pas aussi de maintenir Poutine au pouvoir encore plus longtemps et les deux pieds encore plus ancrés dans son pays?
Ah bah, l'opinion russe, de toute façon, adore son Poutine. Hein, je parle en règle générale, évidemment. Il y a quelques opposants à la marge, mais on sait très bien les museler. Donc l'opinion globalement adore son Poutine. Que Trump soit là, que Trump soit pas là, de toute façon, ils veulent qu'il reste le plus longtemps possible.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il le suivrait, par exemple, jusque dans les Pays-Baltes, jusqu'en Moldavie, potentiellement? On se souvient bien, dans Z comme zombie, vous parliez de l'aliénation volontaire des Russes.
Ah bah oui, bien
il
sûr.
Le suivrait jusqu'aux Pays-Baltes et ailleurs, et plus loin.
Tant que, alors, le paradoxe, c'est qu'ils n'enverraient pas leurs enfants spontanément faire la guerre. Il y a tout un tas de systèmes parallèles pour éviter à ces enfants, via des pots de vin, via des services médicaux complaisants, d'éviter de faire le service militaire, mais tant que ce sont les autres qui y vont, oui, bien sûr, ils ont un ressentiment toujours très très profond, ils ont en eux la folie des grandeurs, l'espèce de respect que l'on devrait avoir devant naturel, hein, devant la grandeur de la Russie, eh bien, je crois qu'ils n'ont toujours pas changé, malgré trois ans en réalité, d'une humiliation en Ukraine.
C'est exactement la question que j'allais vous poser. Parce que pourtant, alors on verra bien ce qui se passe là, ou pour parler ce qui se passe derrière, mais si on s'arrête à cet instant T, par rapport à ses objectifs, il l'a perdu cette guerre, Vladimir Poutine. Il devait aller à Kiev en trois jours, il ne l'a pas fait. Il devait désinguer Zelensky tout de suite, il ne l'a pas fait. Au contraire, il a avancé très lentement, c'est très compliqué. Donc de fait, il ne l'a pas gagné. Jusqu'à quel point les gens sont-ils encore dupes de ça? Parce qu'ils le voient, parce qu'ils le savent. Parce que l'Internet n'est pas bloqué en Russie, donc il voit tout ça.
Oui, il le voit, mais on se trouve toujours des bonnes excuses. Il y en a qui vous diront, c'est parce que l'OTAN était tout entier derrière l'Ukraine, avec des mercenaires étrangers. D'autres diront, mais parce qu'on est humaniste. Si on avait voulu, on l'aurait déjà pris, on aurait déjà liquidé, évidemment, l'Ukraine qui est toute petite. Donc il y aura de toute façon le système immunitaire du ressentiment fait qu'on aura toujours un argument à opposer. Sinon, il faudrait évidemment admettre la nullité de sa propre armée, la bêtise du commandant suprême, et en tirer peut-être quelques conséquences désagréables.
Poutine, Yegor Gan, leur a servi du Napoléon en réponse à Emmanuel Macron, figure majeure en Russie, on sait pourquoi, Napoléon. Poutine qui de toute façon réécrit l'histoire depuis qu'il est là, est-ce que c'est justement parce que l'histoire de l'URSS, l'histoire russe n'a jamais été suffisamment décodée à l'intérieur de ce pays? Est-ce que c'est pour ça que désormais tout est assimilable et n'importe quoi par cette société russe, y compris ce que vous nous racontez là. Est-ce que c'est pour ça ?
Entre autres, je pense que, comme tout fascisme, le système poutinien vise à réécrire l'histoire et à bâtir une mythologie à partir d'une histoire fantasmée. Donc, on va vous resservir, évidemment, la défaite de Napoléon en 1812, en oubliant au passage que Napoléon, quand même, est arrivé jusqu'à Moscou. Et que c'est uniquement parce que
c'est le retour qui s'est mal passé pour Napoléon.
Oui, c'est uniquement parce que les Russes ont brûlé leur propre ville, ce qui est, on peut dire, un crime, que Napoléon a été obligé de rentrer en France. On oublie les autres défaites, d'ailleurs, de la Russie, notamment dans la guerre contre le Japon en 1905, une défaite extrêmement humiliante. On oublie la défaite déjà en Crimée en 1856 avec Napoléon III. On oublie la défaite en Pologne en 1921, etc., etc. On oublie l'Afghanistan. Et évidemment, surtout, on oublie l'instant présent où on est humilié chaque jour en Ukraine.
Et pourtant, donc, il y a ce récit qui désormais est cimenté. Je me souviens que vous êtes venu ici pour nous parler des livres scolaires qui déjà avaient changé. Il n'y a plus de dissidents charismatiques pour dire les choses. Navalny aujourd'hui est mort. Qu'est-ce qui reste sur la route de Vladimir Poutine aujourd'hui, à part rien.
Il reste que les Américains sont la situation derrière lui. Économique absolument au bord de la dépression en Russie. Vous avez des taux d'intérêt qui sont... donc 21%, c'est le taux d'intérêt de la Banque centrale, mais si vous voulez emprunter le crédit le plus bas commence à 29%. Vous imaginez, si vous aviez ces taux-là en France, comment vous, la population crierait au meurtre.
Ce qu'elle ne fait pas.
Ce qu'elle ne fait pas en Russie, ils sont résilients, mais quand même la résilience a des limites.
Et comme aux États-Unis finalement, vous êtes en train de nous dire que la chute peut venir par l'économie.
Oui, elle sera sans doute peut-être plus lente, tout simplement parce que alors déjà, la Russie est entrée en guerre avec zéro dette, avec des réserves d'or extrêmement importantes et de devises. Et donc, mais finalement, tout ça finit par s'épuiser. On voit d'ailleurs dans des vidéos du front que l'équipement militaire n'est plus tout à fait à la hauteur, puisqu'on a vu des vidéos absolument surréalistes. Alors, je ne dis pas que tout le front est fait ainsi, mais on a vu des vidéos surréalistes avec des soldats russes emmenant leurs munitions à dos d'âne. Donc, c'est quand même assez troublant.
Qu'on a vu aussi sur votre page Twitter, d'ailleurs. Et pourtant, Zelensky, ce sera la dernière question, Yegor Gan a donc ouvert des négociations, contraint et forcé, il le fait en ce moment. Est-ce qu'il avait un autre choix, à votre avis ?
Je pense qu'il faut lui faire confiance. Il est là depuis 3 ans, absolument remarquable à son poste et fait ce qu'il peut au mieux de des cartes qu'il a en main. Et contrairement à Trump, il a beaucoup de cartes en main, je trouve. Zelensky, il le prouve chaque jour. Et faisons-lui confiance pour faire le mieux pour l'Ukraine aujourd'hui.
Yegor Gran avec nous, merci beaucoup. On peut relire ce que vous avez écrit, notamment Z comme zombie, que vous étiez venu, dont vous aviez parlé, pouf pouf, ici même. Merci beaucoup Yegor Gran.
Merci à vous.
La suite, ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. Ça se passe au Venezuela, dans un dispensaire. Vous allez voir, vous n'avez jamais vu justement quelque chose comme ça. Pour aller jusqu'à 19h ensemble, il y a d'abord Kevin Dufraîche sous les radars.
Au Brésil, une virée au carnaval qui ne passe pas pour Neymar.
Le monde à 18h50, Franck Madvon.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Vous l'évoquiez, l'économie américaine montre des signes de fatigue. Premier gros nuage pour Trump.
Et Caroline au pays des 27. Salut.
Bonsoir.
Caroline Guilhem.
Alors que la guerre continue en Ukraine, que le rapport de force évolue quotidiennement à Bruxelles, les membres de la commission en charge de la reconstruction de l'Ukraine poursuivent leur travail.
Ce sera juste avant 19h. À tout de suite les amis, le tour de la planète ne fait que commencer. Il passe par l'Éthiopie avec ce groupe qui s'appelle Ratkilo, qui a pris le nom d'un quartier étudiant d'Addis Abeba, figurez-vous. Le morceau est en playlist sur France Inter et il s'appelle Ndendia.
Hey mama, you alright?
Hey Mike, comment dit
Ndendia, Ratkilo, on est à l'aise.
Ndendia.
Peace seeps out my pores. I put in work before the storm.
Mendia la foro, amarilla, nevenia.
Le reportage est au Venezuela ce soir, dans l'état du Bolívar, en Amazonie, où un dispensaire reçoit chaque jour une centaine de patients qui n'ont accès à aucun autre service de santé. La région est très difficile d'accès, les services publics sont inexistants. Une dizaine de médecins et d'étudiants en médecine, fascinés par les cultures autochtones de la région, viennent y travailler pendant quelques mois, parfois même plusieurs années. Nous sommes à 16 heures en 4x4 de la capitale. On dort dans des hamacs, ici on ne compte pas 16 heures. Le projet a démarré il y a 30 ans avec une seule étudiante, coupée du monde. Et aujourd'hui, le dispensaire est ultra connecté, soutenu 24 heures sur 24 par les collègues médecins à Caracas. Et le reste, c'est Alice Campagnol qui raconte.
Lundi matin, et le dispensaire est déjà plein. Il y a beaucoup de familles, de bébés, de personnes âgées. Ici, on vient pour contrôler sa tension, pour faire soigner une plaie, ou bien pour un suivi gynécologique. Et la docteure Maria Lucrecia est en consultation avec une jeune femme enceinte qui m'a autorisée à entrer.
La mère est en consultation car elle a eu des pertes. C'est un cas délicat. Je vais demander à la gynécologue ce qu'elle en pense grâce aux moyens de télémédecine. Je lui ai écrit en lui décrivant les symptômes et elle va me répondre pendant la consultation.
Vous utilisez beaucoup cette possibilité de la télémédecine ?
La consultation via WhatsApp, j'en profite au maximum. Ce serait dommage de s'en priver. C'est simple et rapide, un clic et voilà. Sortir mon téléphone, poser une question au médecin qui, la majeure partie du temps, sont hyper attentifs et répondent rapidement.
Je suis maintenant avec Thomas Sanabria, cardiologue, l'un des fondateurs du dispensaire. Thomas, alors ça a commencé comment la télémédecine il y a 30 ans ?
On a commencé avec radio, mais la technologie a commencé à avancer. Et une chose très importante, tout à fait nouvelle, c'était fax. C'était incroyable parce qu'avec un vieux électrocardiogramme que je n'utilisais plus, mais il était ici, il pouvait m'envoyer des électrocardiogrammes pour les voir à Caracas. Et puis, Internet, ça a tout changé.
Le dispensaire de Maniapure est la référence pour toutes les communautés alentours qui vivent de façon traditionnelle et qui sont complètement oubliées des autorités dans un pays où même en ville, les services publics sont défaillants. Ici, on fait 10 000 consultations par an, médecine générale, laboratoire, soins dentaires, soins obstétriques. Mais le centre a ses limites et c'est Renzo Bibas qui nous en parle. Renzo a démarré ici comme stagiaire et aujourd'hui, il est médecin référent.
Il y a toujours des urgences obstétriques que l'on ne peut pas prévoir. Mais grâce à la télémédecine, nous prenons des décisions réfléchies. Quand j'arrive au bout de mes connaissances de médecine générale, je consulte un gynécologue par téléphone qui me dit si je dois transférer la patiente pour une césarienne. L'hôpital le plus proche où l'on peut pratiquer une chirurgie est à 120 km d'ici. 120 km en 2 heures minimum, car la route est dans un état terrible.
Et justement, ce soir, il y a un accouchement à la Milagrosa. Yulimar s'apprête à avoir son 4e enfant et jusqu'ici, tout se passe bien, pas de télémédecine pour le moment. Le petit garçon de Yulimar est arrivé ce soir à Maniapure, pas de transfert à l'hôpital, heureusement. Mais le travail du dispensaire dépend d'un élément essentiel, l'électricité, qui n'arrive pas dans la zone. Ici, ce sont des groupes électrogènes qui la fournissent très gourmand en carburant. Mais bientôt, des panneaux solaires permettront à la fondation une autonomie totale.
Alice Campagnol pour le reportage. Merci beaucoup Alice. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. C'est d'abord en Indonésie que nous sommes, Kevin, avec une condamnation.
2 ans et 10 mois de prison pour une blague sur TikTok. Peine prononcée hier par un tribunal de Medan, dans le nord de l'archipel, à l'encontre d'une influenceuse, Ratu Thalissa. Le 2 octobre, elle fait un live sur TikTok quand un internaute laisse un commentaire pour lui dire de se couper les cheveux comme un homme. Ratu Thalissa est une femme transgenre. En réponse, elle choisit l'humour et affiche une image de Jésus-Christ sur son téléphone et dit « Tu devrais te couper les cheveux, tu ne devrais pas ressembler à une femme. Des groupes chrétiens ont alors porté plainte pour blasphème. La jeune femme a été arrêtée et donc condamnée hier en vertu d'une loi très controversée censée punir les discours de haine en ligne. Une atteinte choquante à la liberté d'expression, dit Amnesty International, qui demande l'annulation de cette condamnation. L'ONG estime à 560 le nombre de personnes arrêtées en Indonésie depuis 2019 en vertu de cette loi.
La Colombie qui fait une demande.
Oui, c'était hier lors de la session annuelle de la Commission des stupéfiants des Nations Unies. La ministre colombienne des Affaires étrangères, Laura Sarabia, a demandé à l'ONU le retrait de la feuille de coca de sa liste des substances les plus nuisibles. La plante est bien sûr l'ingrédient principal de la cocaïne, mais elle est aussi utilisée seule dans la médecine traditionnelle de nombreux pays d'Amérique du Sud. Bogota estime que grâce à ce retrait, la feuille de coca pourrait être utilisée dans l'industrie pour fabriquer des engrais ou des boissons. La science démontrera qu'elle n'est pas nuisible pour la santé, assure Laura Sarabia, qui affirme par ailleurs que cette demande n'a rien de contradictoire avec le fait d'éradiquer les cultures de coca des gangs destinées au trafic dans le pays. Le président colombien Gustavo Petro a plusieurs fois suscité la polémique, estimant par exemple que la cocaïne n'était pas plus mauvaise que le whisky et que les trafics seraient facilement démantelés si la cocaïne devenait légale dans le monde entier.
Et puis nous sommes au Brésil où les spécialistes de foot sont très 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 fâchés.
Oui, contre Neymar, encore une fois au cœur d'une polémique. L'ancien joueur de Barcelone et du PSG est revenu il y a un mois à Santos, son club formateur. Les premières semaines se sont bien passées, l'attaquant a joué et même marqué. Mais dimanche, il était sur le banc, blessé à la cuisse pour assister à l'élimination de son équipe, battue en demi-finale du championnat de Sao Paulo. Vous allez me dire, il n'y est pour rien dans cette défaite puisqu'il était blessé. Sauf que la semaine dernière, au lieu de se reposer, Neymar était à Rio pour le carnaval. Pourquoi il ne s'est pas concentré sur sa convalescence? Le football arrive-t-il en second plan pour lui? Voilà les commentaires que l'on peut lire dans la presse brésilienne, sachant que Neymar et la fête, c'est une grande histoire d'amour, plusieurs fois épinglé pour ses grandes soirées d'anniversaire, et le carnaval de Rio déjà en 2019, alors qu'il était blessé déjà, et il jouait à Paris à ce moment-là. Ce voyage à Rio, là en tout cas, était autorisé par le club. Neymar espère toujours jouer une dernière Coupe du Monde avec le Brésil l'année prochaine.
Allez, Kevin Dufraîche, merci. Vous partez en passant par les États-Unis avec Ilan Barnes. Le morceau s'appelle Time sur France Inter.
Do you ever realize that the ticking in my head sets off time at a gallop pace with the nonsense you have said? Do you ever go to shows with their eyes to see what is written between the lines, or is it too close to be? You know time is passing by, and time, it rhymes with time. Do you ever stop to think of the boss that they have thunk? How you thought you were revered, how they thought that you stunk? Ever hear them say what's said in privacy? Now let's keep this between us and between you and me. You know time is passing by, and time, it rhymes with time. And the first one said to the second one there, this is too good to be. And the verses rhyme, even out of time, just make your melody. And I thought they thought me equal, but silver spoon fed me. And the verses rhyme again at time, bows breaking, please catch me. Time is passing by, and time, it rhymes with time. List of what you told was a good exchange on Starkey Range. You doubled it and sold, and you thought you heard most every word they say in privacy. But let's keep this between us and between you and me. You know time is passing by, time, it runs with time.
Ilan Barnes, formidable Ilan Barnes. Time sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h. Oulala, 48, c'est Franck Madvon. How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Franck, nouvelle journée agitée sur les marchés financiers. Aux États-Unis, les indices boursiers chutent encore. Ce soir, vous nous dites pourquoi Donald Trump pourrait ne pas tenir ses promesses de prospérité économique.
Alors, on fera le bilan ce soir, mais Wall Street vit en effet une nouvelle journée mouvementée. Après un lundi noir hier, à savoir la chute des trois principaux indices boursiers, Dow Jones, Standard & Poor's 500 et Nasdaq, entre 2 et 4% de baisse. Ces indices qui ont flambé après l'élection de Trump affichent maintenant des niveaux inférieurs à ceux de la présidentielle de novembre. Aujourd'hui, donc, les marchés accusent encore le coup après de nouvelles annonces de Trump. Le président républicain double les taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium canadien, censé entrer en vigueur demain, 50% au lieu de 25%. Ces droits de douane, on va y revenir, expliquent en partie la nervosité des marchés. Hier, comme un symbole, un titre a retenu l'attention, Tesla, moins 15% en une journée. La société d'Elon Musk a perdu la moitié de sa valeur en 2 mois.
Et l'administration Trump change de discours.
Il faut rappeler les mots du président pendant sa campagne. Il promettait des revenus colossaux pour l'économie, des millions d'emplois, la prospérité pour les classes moyennes. Trump n'a pas changé tout à fait de discours, mais il y apporte beaucoup de nuances. Interrogé dimanche sur Fox News, il n'exclut pas une récession cette année. Je déteste prédire ce genre de choses. Il y a une période de transition, dit-il. Déjà devant le Congrès, il y a une semaine, il a reconnu que sa politique économique pourrait entraîner quelques perturbations et des membres de son gouvernement, comme le secrétaire au commerce Howard Lutnick ou celui au Trésor Scott Bessent, admettent que la hausse des droits de douane peut augmenter l'inflation.
Donc ces droits de douane sont au cœur du problème.
Ben c'est la principale inquiétude des marchés, en effet. Des taxes visant le Canada, le Mexique et la Chine sont déjà entrées en vigueur et ce n'est pas fini. Trump brandit presque chaque jour la menace de nouveaux droits de douane. Ces droits ont un effet mécanique sur l'inflation et Trump renforce les craintes en entretenant le flou. Il annonce des droits de douane, se dédie puis revient à la charge. Les investisseurs détestent cette incertitude sur les prix. D'autres facteurs, Fabienne, fragilisent l'économie américaine. De plus en plus de ménages sont frappés directement et indirectement par la réduction des dépenses fédérales, licenciements, arrêt de certains contrats. Des Américains perdent confiance et consomment moins. Ils ne voient pas encore les prix baisser. On connaîtra d'ailleurs les chiffres de l'inflation demain. La lutte contre l'immigration pourrait aussi priver l'économie de main-d'œuvre bon marché.
Donc les perspectives économiques s'assombrissent.
Les prévisionnistes de JP Morgan et Goldman Sachs viennent d'augmenter la probabilité d'une récession cette année. On y vient, 20 à 40% de risque. C'est le moment de rappeler que l'économie américaine se portait bien quand Donald Trump a été élu. Certes, le mandat de Joe Biden a été marqué par une forte inflation, mais la hausse des prix était contenue en fin de mandat et les fondamentaux étaient solides. Faible chômage, croissance régulière. Les électeurs de Trump pourraient ne pas lui pardonner des résultats décevants. On n'en est pas encore là, mais on a déjà l'assurance que Wall Street voit d'un très mauvais œil les guerres commerciales déclenchées par le milliardaire.
Franck Madvon, merci beaucoup. Caroline, au pays des 27, c'est Caroline Gillet qui pousse les portes d'une Europe qui a fort à faire en ce moment.
Et oui.
Ce qui n'empêche pas de frapper avant d'entrer.
France Inter, le 18-20.
Chaque jour, Caroline, la situation diplomatique évolue pour Kiev et ses alliés. Et dans ce contexte, incertain, vous avez rencontré la personne en charge pour la commission de la reconstruction de l'Ukraine.
Et oui, cette personne existe. Sur LinkedIn, son poste, c'est vraiment chef de projet pour la reconstruction de l'Ukraine. Et avec un titre pareil, je me disais que ça devait être quelqu'un avec un ego pas possible. Eh bien non, il s'appelle Gabriel Blanc, il a 46 ans, il est passionné d'Ukraine, il est très, certains diraient, trop optimiste. Et alors que la guerre se poursuit, que la situation est terriblement incertaine, il me dit qu'il continue son travail, que l'inertie dans l'administration fait que le temps politique n'a pas encore eu d'impact. Ça, par exemple, c'est un message de sa part, vendredi dernier.
Voilà, je finis ma journée de travail. Je pousse mon vélo là, dans le quartier européen pour aller rejoindre les collègues après une longue journée. En fait, on avait une réunion avec les États membres pour approuver des nouveaux projets pour aider l'Ukraine. Donc je suis très content, ça s'est très bien passé, pour reconstruire des logements, aussi pour aider des entreprises ukrainiennes, typiquement les entreprises qui embauchent des déplacés internes ou les entreprises qui sont situées dans des zones proches du front. Donc je vais retrouver les collègues avec qui on a préparé tout ça, pour boire un verre aussi d'ailleurs avec des collègues ukrainiens qui sont venus du ministère de l'économie pour participer à la réunion. Voilà.
poursuivre ses réunions sur l'aide à l'Ukraine dans le contexte qu'on connaît doit être bien particulier. Gabriel Blanc a accepté de me raconter comment il en est arrivé là. C'était un samedi, au lendemain de son retour d'Ukraine. Il m'avait donné rendez-vous au Bar du Matin, une institution bruxelloise, et j'étais un peu en avance.
Il y a un monsieur derrière nous qui parle très fort de sa maison sur la baie de Saint-Michel. Mais je vais me rapprocher très très près de Gabriel Blanc et donc ça va aller.
J'ai lu que pour Gabriel, tout ça avait commencé au Kazakhstan, suite à un film vu à la télé.
C'était complètement par hasard, c'était un documentaire sur la route de la soie sur Arte, qui m'a complètement scotché.
À l'époque, il était en école d'ingénieur et il se passionne pour les républiques d'Asie centrale. Il commence à apprendre le russe et part travailler à Moscou. Et c'est à l'occasion d'un voyage en Ukraine qu'il découvre la culture, l'histoire, la langue, les traditions de ce pays. Il se rend compte à quel point il est marqué par la propagande russe, qui nie l'identité ukrainienne, mais aussi par ses biais de jeunes Français.
En France, peut-être qu'on s'en rend pas toujours compte, mais on porte quand même l'héritage d'une ancienne puissance coloniale. Quand on est Français, finalement, c'est plus facile de se dire... le sort du monde doit être géré par les grandes puissances. Et donc c'est quelque chose qui me semble tout à fait insupportable de ne pas considérer que bah, finalement simplement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
2010, il part avec sa femme et leurs deux enfants s'installer à Kiev et travaille 3 ans là-bas pour la délégation de l'Union européenne. Quand en février 2022, la Russie attaque Kiev, Gabriel vit à Bruxelles et décide de rejoindre le groupe Ukraine à la Commission.
C'était une dynamique vraiment de l'urgence, comment réallouer tous les projets qu'on avait, tous les fonds qu'on disponibles pour aider l'Ukraine et pallier au plus urgent.
Gabriel est un des co-auteurs du règlement Facilité pour l'Ukraine, qui fait la promesse de fournir au pays jusqu'à 50 milliards d'euros sur la période 2024-2027. Cette aide, elle est conditionnée entre autres à la mise en place d'un plan pour l'Ukraine qui engage le pays à se réformer en vue de son adhésion à l'UE. Je lui demande à quoi servent les aides.
Les priorités, malheureusement, elles sont assez évidentes. Hein. Le fait de protéger les infrastructures énergétiques, où on a réussi à aller relativement vite sur des projets de protection de postes électriques haute tension, par exemple.
Comment on protège un...
C'est comme des sarcophages en béton. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait de doute dans l'Union européenne sur le fait que investir dans l'Ukraine, c'est investir dans l'avenir de l'Europe pour aussi le rôle que l'Ukraine... On peut jouer en termes d'innovation. C'est un pays dans lequel il y a des innovations qui sont complètement incroyables, même en temps de guerre. Et j'ai vu, alors, qui est reflété même dans des rapports de l'OCDE, que les services publics et l'accès des Ukrainiens aux services publics s'est amélioré pendant la guerre. Avec le développement des applications comme DIA, qui permet de faire tout un tas de démarches en ligne. Et les ressources naturelles, évidemment. Alors, on en parle énormément cette semaine.
Le 24 février dernier, il était en vacances à Berlin. Il avait trouvé une manifestation en soutien à l'Ukraine pour marquer les 3 ans de guerre. Il m'envoie ceci.
Il y a des pancartes. Allemagne, réveille-toi. Fight for Europe, fight for Ukraine, fight for safety, fight for democracy. Il y a quand même pas mal de monde, donc ça fait chaud au cœur.
On sent bien que son engagement pour l'Ukraine dépasse le cadre professionnel. Et c'est bien sûr le cas de la plupart de ses interlocuteurs ukrainiens à Kiev. Il me parle de ce qui s'est passé, par exemple, le 9 juillet dernier.
On s'est retrouvés donc, dans la salle de réunion avec tout le monde et où tout à coup, tous les collègues ukrainiens ont regardé leur téléphone. C'est le moment où il y a un missile qui est tombé sur l'hôpital pour enfants à Kiev, l'hôpital Armadite. J'ai trouvé que c'était évidemment très dur et à la fois on parlait de politique de reconstruction, d'avoir ce missile qui tombe en plus sur un hôpital pour enfants, pas loin d'un des ministères où beaucoup de collègues travaillaient, dont les fenêtres avaient été soufflées. Donc cette réalité de la guerre, même loin de l'Ukraine, pour eux qui travaillent sur la politique de reconstruction, qui donne un effroi, on peut dire.
Voilà, ouais. Profil parfois inattendu à la Commission.
Un effroi, il finit par effroi.
Oui, il finit par
monsieur, quand même. Caroline Gillet, merci beaucoup. Vous reviendrez mardi prochain.